Me, I don't care what, as long as it's woman.
I'm not sure you'd know what to do if you saw a woman.
Just let me try.
That's one thing you never do forget.
Just get him here.
Mine don't even have to know how to cook, Roy.
Well, I don't guarantee their looks. One man's eye for beauty is another man's eyesore. But you know me. You know I don't give my word lightly. One thing I can and will promise. They'll be good women. Make sure you'll be good enough for them. Make sure you treat them with patience, understanding, honesty. It'll be your fortune. Make sure you make it a good fortune. For yourselves, for them, for the children they'll bear you. God help you if you don't. You'll answer to me. Bye. Take care of my valet.
But now we come to a period that I call the battle for identity.
Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah.
Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 12, épisode 27. Cette semaine, émission chimie, enquête et questions du genre et des genres. La parole des opprimés et des aliénés est confisquée et récupérée comme une eau corrompue par le vice des puissants. Un jour que, sous les roseaux, sommeillait mon eau vive, vint relégat du hameau pour la mener captive. Fermez votre cage à double clé, entre vos doigts, l'eau vive s'envolera. Et oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma de syllabes. Quel est mieux que les autres? Au programme ce soir, donc, à propos d'eau vive, nous parlerons de Dark Waters, le nouveau long métrage d'un de nos chouchous, Todd Haynes, qui est sorti la semaine dernière, film avec Mark Ruffalo. Et après, nous parlerons d'un deuxième long métrage, celui de David Perrault, donc L'État sauvage, qui est sorti il y a deux semaines. Pour parler de ce jeu programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest, il y a le docteur Erwan. Bonsoir docteur.
Bonsoir.
Il y a carrément Fleuret. Bonsoir Thibault.
Salut Thomas, salut à tous.
À la mise en son de cette émission, il y a Gal. Bonsoir mon cher Gal.
Bonsoir.
Pardon. Carla n'est pas des nôtres ce soir car elle a l'idée saugrenue d'être en Belgique. Pourquoi pas? Pour faire du tourisme, les musées, tout ça, là, voilà.
Ah, les jeunes.
C'est dur la vie, hein. Tout ça, c'est loin pour nous.
Ouais. Nous, il faut qu'on travaille, nous. Il faut qu'on gagne notre pain, nous. On se lève à 5h du mat, nous.
Pour aller au Hall.
Pour décharger les palettes.
Hein, on nous appelle les forces vives de la nation.
Exactement.
Si la France se redresse, c'est un peu grâce à nous.
Ouais, exactement.
Ne nous remerciez pas.
Pas très près de Rennes en plus.
Oui, c'est vrai que c'est. Hein, en plus, ça fait de la route pour y aller. Hein.
Nous sommes ceux qui rendent son érection à la France.
Exactement. Donc, À propos d'érection, avant de passer à la section critique de cette émission, les agendas et les news, enfin une news, on va commencer par le Rest in Peace de la semaine. Ça fait longtemps, c'est vrai qu'on les fait plus trop parce que sinon on passerait notre temps à faire des Rest in Peace. Mais donc c'est la mort à l'âge de 90 ans du vénérable et du gigantesque Max von Sydow, quelqu'un qu'on pensait
éternel,
puisque ça fait depuis que je suis né, moi je le vois au cinéma, tout le monde ici, tout le monde d'ailleurs le voit. Au cinéma depuis maintenant, il y avait eu presque 70 ans de carrière, ouais. Donc auteur phare chez Bergman, chez Lars von Trier.
Un mec a réussi à passer du 7e saut à Game of Thrones.
Voilà.
Sur l'ensemble de sa carrière.
Ouais. Star Wars, il aura joué absolument partout.
Ouais,
chez Friedkin,
il aura tout fait.
Tout ça.
Ouais.
Légendaire.
Un immense acteur.
Une voix.
À la stature incroyable, une pure voix.
C'est pas lui qui jouait dans Le Bazar de l'Épouvante aussi?
Si, je crois.
Avec Kedari, c'est lui qui est méchant, si mes souvenirs sont bons.
Super acteur, Max von Sydow.
Découvreur de Pazuzu.
Ah oui.
Ouais, découvreur de Pazuzu.
Et ça, c'est quand même pas de la merde, les amis.
Finalement, grande,
c'est pas rien.
Finalement, grande figure du cinéma fantastique pour un mec qui est plutôt, si mes souvenirs sont bons, un acteur de théâtre, qui est plutôt un acteur de théâtre dramatique, plus classique, on va dire, quoi, mais qui finalement a été
ce caractère austère qui se travaille un petit peu.
Une icône discrète du cinéma fantastique.
Qu'on a vu à peu près partout, que tout le monde a vu de toute façon dans un film, à un moment donné dans sa vie, ou dans une série maintenant. Donc,
ou entendu sa voix.
Voilà.
Parce qu'il aussi fait des voix, fait des trucs comme
beaucoup,
ça.
Oui, beaucoup. La voix de Europa, de Lars von Trier, notamment au début, Welcome to Europa, tout ça. Donc bref, très grand acteur qui vient de nous quitter à l'âge de 80 ans. Il allait tranquillement sur ses 91 ans. Voilà.
Une vie bien remplie.
Exactement. On va passer aux agendas. Donc ce soir, à Cinémaniacs, Diapason, sur le campus de Rennes, à 20h30, c'est Une femme disparaît de Alfred Hitchcock, film de 1938.
Film très drôle.
Film très drôle.
Ouais. Comédie criminelle super marrante. Moi, ça fait quelques années que je ne l'ai pas vu, mais dans mon souvenir, c'était, bien,
je trouve
c'était
que,
bien marrant.
De manière générale, on sous-estime un peu l'humour dans le cinéma de Hitchcock, parce que c'est quand même souvent assez drôle, notamment ces films avec Gary Grant ou bien James Stewart. Il y a quand même beaucoup de petites
drôles,
blagues, de trucs drôles qui marchent très très bien. Demain, au Tambour, donc sur le campus de Rennes 2, soirée C'était mieux avant, avec à 18h le film de Jean Epstein, Finisterrae. Très grand film,
très grand cinéaste.
Et à 20h30, L'île nue de Kaneto Shindo, film japonais de 1960.
Je n'ai point vu, mais Shindo, oui, c'est bien normalement. Shindo.
En général, c'est pas mal.
Généralement, c'est pas mal. Mais celui-là, je ne l'ai pas vu. Mais c'est un de ses plus connus, je crois.
Pour continuer dans le local, ce week-end à Rennes, pour prolonger, on va dire, la journée internationale des droits de la femme qui était donc dimanche dernier, Comptoir du Doc nous propose Doc au féminin du 13 au 15 mars. Donc ça se passe majoritairement au Champ Libre et à la MJC Maison de Suède. Donc c'est métro Henri Fréville à Rennes. Toutes les séances sont gratuites. Les séances de projection, il y en a 6. Il y a aussi des rencontres, des conférences. Donc évidemment, tout le programme est à retrouver sur leur site. Mais ce sont des films qui sont déjà sortis, mais qui n'ont pas connu, on va dire, une sortie ou bien une destinée dans les salles bretonnes et notamment rennaises très importantes. Donc du coup, vous pourrez revoir ça tout ce week-end. Je mettrai bien évidemment les liens sur le podcast de l'émission. Oui.
Peut-être que tu vas en parler, mais il y a aussi Millennium Actress qui passe dimanche soir au TNB, enfin dimanche à 17h45. Il y a par ailleurs Blue Velvet de David Lynch qui passe toute la semaine au TNB également. Voilà, ça peut être
moi, je pense que j'irai voir le Satoshi Kon parce que Millennium Actress est un de ses meilleurs chefs-d'œuvre.
Moi, je l'ai jamais vu
parce qu'il n'a fait que des chefs-d'œuvre.
Moi, j'ai jamais vu celui-là en plus. Il est super rare au cinéma. Il vient de ressortir un peu en copie restaurée.
Prépare tes mouchoirs, par contre.
Je le connais. Je l'ai déjà vu, mais je l'ai jamais vu au cinéma.
C'est merveilleux. Complété. Très 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 grand film. Merci, docteur. Donc sortie nationale demain, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il y a La Bonne Épouse, le nouveau long métrage de Martin Provost avec de Binoche et Édouard Baird. Voilà. j'ai rien d'autre à en dire. Sinon, il y a, pour Thibaut, parce que je sais qu'il aime bien la musique et tout ça, il y a le nouveau film en tant que metteur en scène de Mathias Malzieux de Dionysos qui s'appelle Une sirène à Paris avec Nicolas Duvauchel qui joue de la guitare, qui va rencontrer une sirène dans la scène. Alors moi,
je suis un petit peu revenu de Mathias Malzieux.
Je rencontre une sirène dans la scène. Personnellement, j'ai pas trop confiance parce que
je la touche pas.
Tu trimballes un sacré paquet de saloperies avec elle, avec tout ce qui traîne.
En plus que c'est le coup, elle a retrouvé étranglée avec un avec un emballage de coca, avec un emballage de Coca-Cola.
C'est un nouveau de Splash de Paris, en fait, de Tom Hanks, avec Tom Hanks et Daryl Hannah.
Ah oui, Splash, ouais.
C'est ça.
Ouais, c'est pas terrible.
Coincé dans les roues d'un Vélib.
Ah oui, coincé dans les roues d'un Vélib. Sinon, il y a le nouveau film en tant que metteuse en scène de Marjan Satrapi qui s'appelle Radioactive avec Rosamund Pike qui est juste sur Marie Curie.
Ouais, why not?
Voilà, why the fuck not, effectivement. Sinon, il y a un documentaire de Juan Solanas, le film de l'autre, donc l'Argentin, qui s'appelle Femme d'Argentine, pardon, qui raconte les luttes récentes pour l'IVG en Argentine. Et sinon, il y a un documentaire qui a l'air assez chouette, mais je ne sais pas malheureusement si ça passera chez nous. Ça s'appelle Congo, deux réalisateurs français, donc, qui se passe à Brazzaville et sur un guérisseur chaman local qui va se faire prendre pour un mageoire. Donc évidemment, ça va partir en sucette et ça a l'air assez chouette. Mais la semaine prochaine, nous ne parlons pas de ça. Nous parlerons du nouveau film de Patrick Chia qui est en ce moment au TNB, dont j'ai totalement oublié le nom d'ailleurs.
Aussi.
Et probablement deux sorties de western chez Sidonis, notamment le gigantesque Rio Conchos. Donc voilà, nous parlerons de tout ça la semaine prochaine. On va passer à la section critique de cette émission pour aller du côté de chez Todd Haynes et de la lutte contre les grands industriels, ces gros enculés. Et pour ça, on ne va rien lâcher avec Johnny Cash.
Well, I won't back down. No, I won't back down. You can stand me up at the gates of hell, but I won't back down. Gonna stand my ground. won't be turned around. And I'll keep this world from dragging me down. Gonna stand my ground, and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground, and I won't back down. Well, I know what's right. I got just one life. In a world that keeps on pushing me around, but I stand my ground, and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground, and I won't back down. No, I won't back down.
Cette voix, mes aïeux, cette voix.
Exactement, vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab, et c'était Johnny Cash avec I Won't Back Down, une merveilleuse reprise de Tom Petty and the Heartbreakers, que vous pouvez retrouver sur The American Recordings volume 3, qui est absolument merveilleux et très très belle reprise évidemment de Johnny Cash sur la fin de sa carrière, qui est absolument un album magnifique. De toute façon, tous les American Recordings sont magnifiques. Et à propos de magnifique, donc le nouveau film de Todd Haynes, Dark Waters, réalisateur qu'on aime beaucoup ici et qui avait fait un long métrage il y a 2 ans qui s'appelait Wonderstruck, qui était sorti en 2017. Là, il s'agit de son 8e long métrage, et qu'il avait aussi réalisé une série télé qui s'appelle Mildred Pierce avec Guy Pierce et Kate Winslet.
Chef d'œuvre.
Donc, réalisateur a priori assez, on va dire, éloigné de ce genre assez affectionné par le cinéma américain, qui est le film Dossier. Parce que là, évidemment, donc, encore une fois de plus, c'est based on a true story sur l'enquête et la lutte d'un avocat de Virginie Occidentale, donc qui travaille pour les grandes compagnies chimiques et pétrolières, qui est incarné par Mark Ruffalo, et qui un jour, par un lointain ami de la famille, infirmier, va être appelé pour enquêter sur la mort, sur les morts mystérieuses de son champ de vaches. Et là, il se dit que quand même, c'est bizarre, quand t'as 190 vaches qui meurent en quelques mois, c'est bizarre, on va peut-être enquêter. Et juste à côté, il y a l'énorme entreprise DuPont, entreprise ancienne et vénérable des États-Unis d'Amérique, qui ont permis au monde entier de mieux vivre dans nos cuisines, enfin, à nos ménagères, notamment, de mieux vivre dans nos cuisines, et à l'armée américaine d'aller niquer le gueule à tout le monde.
Inventeur de la toile jean aussi, le DuPont de Nemours.
Les DuPont de Nemours. Donc,
d'origine française.
Évidemment, avec un nom pareil. Dont l'héritier avait été incarné il y a quelques années par Steve Carell dans le Foxcatcher de Billy Piller, dans lequel jouait d'ailleurs Mark Ruffalo.
Ah oui, c'est
avant
vrai.
D'être assassiné par Channing Tatum.
Ouais, c'est vrai.
Et donc évidemment, quand il va se rendre compte que tout ça c'est quand même un peu louche ce qui se passe avec ces grandes compagnies là chimiques, l'enquête va évidemment prendre un tour beaucoup plus personnel et beaucoup plus national aussi, puisque donc évidemment pression, enquête, avocat, tout ça, le bazar comme on dit. Donc je disais film assez, pas étonnant mais peut-être un peu étrange dans la carrière de Tolley, parce que c'est son premier film de commande. C'est Mark Ruffalo qui est à l'initiative du projet, qui est allé le chercher d'ailleurs, à la grande surprise de Tolley, qui dit pourquoi moi, puisque Mark Ruffalo, je pense qu'il maintenant a un acteur comme un peu de pouvoir, et il s'est autorisé à prendre un metteur en scène qu'il aimait bien, qui est Tolley, et donc après oui, assez éloigné de cet univers là parce que dans tous ses longs métrages, que ce soit Carol, que ce soit dans Velvet Goldmine, dans Safe ou dans I'm Not There, dire que c'était plutôt pas de la psychanalyse mais de la psychologie personnage assez complexe, de relations amoureuses ou non,
questions d'identité.
Voilà, question d'identité.
Ouais, pas du tout du film. Enfin, on n'est pas du tout dans une optique de film d'action, quoi.
Dans un film d'action, un film dossier ou même des films basés sur des faits réels. Parce que, par exemple, I'm Not There sur Dylan, c'est tout à fait
à part. C'est plutôt une digression à partir de la réalité que
d'une figure réelle. Donc film assez étonnant et qui est basé donc sur un article qui s'appelait The Lawyer Who Became DuPont's Worst Nightmare de Nathaniel Rich. Ça se fait pas mal de toute façon aux USA de faire des films basés sur des enquêtes ou bien sur des articles. Et donc c'est dans une veine du cinéma américain assez traditionnel du film dossier. On avait The Post de Spielberg il y a 2 ans. Il y avait The Report les derniers avec Adam Driver. Il y a eu Spotlight il y a quelques années qui avait gagné l'Oscar.
Michael
tout ça.
Keaton.
Voilà, Michael Keaton. Clayton, voilà. Ouais. Qui, comme dans pas mal de films de ce genre-là, sont en général bétonnés en termes de scénario et puis d'acting, mais où la mise en scène est très volontiers illustrative, au mieux, quand elle n'est pas carrément plate. Quoi. Alors que là, Todd Haynes arrive à insérer toutes ses obsessions formelles et de personnages d'un résultat assez étonnant, je trouve, dans sa filmographie et dans ce sous-genre qui serait le film dossier ou le film d'enquête, on va dire.
Oui, alors
Thibaut,
vous n'êtes pas sans savoir que j'ai une admiration sans limite pour le cinéma de Todd Haynes et ce film-là ne va pas me faire mentir. C'est un film que j'ai trouvé d'une maîtrise absolue. Alors déjà, j'ai adoré parce que déjà le genre du film dossier, moi, me passionne et surtout c'est un cinéma on va dire conscient, mais ici conscient sans sortir les gros sabots et surtout conscient de au-delà des enjeux politiques ou du scandale industriel, conscient aussi de véritables enjeux dramatiques entre les personnages. Donc ça c'est la première grande force du projet. Tu citais d'autres films un petit peu de ce niveau-là. Si on peut comparer par exemple à Spotlight où Mark Ruffalo joue, dans lequel Mark Ruffalo joue également, quand on avait fait l'émission à propos de ce film, on avait tous, il me semble de mémoire, reproché à Spotlight d'être un film assez linéaire, assez lisse, qui reposait sur la grande force du cast. Le cast était à ce titre en effet merveilleux. Et ici, dans Dark Waters, chaque effet de montage, chaque angle de caméra, chaque élément de décor est d'une maîtrise absolue. C'est un film qui, sur les 2h07 qui dure, laisse l'élégance cinématographique et du coup l'élégance des personnages arriver au spectateur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, dans ce film-là, on va pouvoir et s'énerver face à un tel scandale dont nous sommes nous-mêmes victimes en 2020. Et en même temps, on va pouvoir avoir une vraie émotion de spectateur parce que Todd Haynes est un directeur d'acteurs exceptionnel qui arrive à faire vivre ses personnages, notamment le personnage de Anna Taoué qui pourrait être un petit peu...
Qui joue la femme de Mark Ruffalo dans le film.
Qui pourrait être un petit peu subalterne, mais elle a 2 scènes. Une chant contre chant dans une cuisine, dans une espèce d'engueulade où il y a un vrai travail de mise en scène par rapport à la scénographie qui est absolument magnifique. Et un regard. Et ce regard-là suffit à la faire vivre et suffit à amener l'émotion. Et c'est absolument gigantesque de la part de Todd Haynes de détourner un petit peu le film de commande et d'aller un petit peu vers ce qui lui l'intéresse, on va dire, c'est les traumas identitaires, ou du moins la question identitaire. Et ici, c'est la question identitaire, c'est quoi? C'est cette question d'une famille ultra-catholique et du coup purement américaine et qui va se retrouver en fait confronté à une autre logique américaine qui est la logique du capitalisme américain. Et en fait le discours final, on va pas le spoiler, mais le discours final de Mark Ruffalo est en ce sens hyper salvateur et hyper conscient du monde dans lequel on vit. Donc voilà, c'est un film qui permet à 1 de réfléchir, 2 de s'indigner, 3 de s'émouvoir. En ce sens, le pari est réussi. Après on va pouvoir un petit peu discuter sur d'autres souvent, éléments, mais c'est remarquable.
Souvent dans les films dossiers, on est quand même toujours dans le parti pris et dans le point de vue des personnes, donc que ce soit sur les scandales de la pédophilie dans l'église avec Spotlight, les problèmes sur la crise du journalisme, tout ça, on est convaincu d'avance en fait. Alors que là, dans le truc avec Dark Waters, donc c'est sur les grandes industries pétrochimiques, mais il n'y aura pas non plus un truc pour dire que OGM c'est mal, que la chimie c'est mal, que la science c'est de la merde et tout machin. C'est pas du tout le problème de la science qui est posé dedans, c'est de son utilisation par les industries et par le mensonge d'une industrie qui devient presque un mensonge d'État, parce que appuyé par les gouvernements, par les différentes taxes, par les différentes, on va dire, mise en place par les gouvernements pour les favoriser, parce que donc le truc qui est utilisé dans le film, le C8 qui à la base était utilisé pour recouvrir les chars d'assaut américains durant la guerre.
Ça
après,
vient du projet Manhattan, voilà, qui est l'initiative de la première.
Après, est utilisé pour mettre dans les poils, pour mettre dans les revêtements de fringues, de machin comme
Téflon,
ça.
Quoi.
Ouais, c'est ça.
Là, je t'ai passé
c'est le téflon qu'on trouve absolument partout. Quoi.
Et ce qui est intéressant, c'est que, avant de laisser la parole au doc, c'est que en fait, le projet politique du film, ou du moins le projet, on va dire, de scandaleux, on va dire, du film, n'apparaît pas sous un didactisme, on va dire, outrancier. C'est au détour d'une ligne de dialogue, au détour d'un schéma qu'on va essayer de comprendre. Voilà, tout se fait, on va dire, naturellement, en fait, avec une superbe et une élégante pédagogie qui fait qu'en fait, on n'est jamais plombé par le sujet. Todd Haynes maîtrise son sujet et en fait ne va pas asséner le spectateur avec une base de données hyper quasi exhaustive, quoi. C'est qu'en fait non, tout va arriver de manière très naturelle, très simple, très élégante, pour que en fait on puisse arriver, nous spectateurs, à s'indigner, on va dire, correctement. On va dire ça comme ça, quoi.
Ouais, parce qu'il a pas besoin de 40 000 plans pour montrer que Marc Ruffalo bosse comme un con dans son hangar à trier des papiers avec 15 000 cartons qui sont remplis de dossiers, de rapports, de machins, là. On comprend ça justement par un montage qui est assez sec mais élégant, que justement c'est sur la mise en place du truc. Et le doc en parlait un peu en off avant qu'on commence, sur la question du temps qui passe et sur la gestion du temps, parce que c'est une enquête sur quasiment 15 ans, quoi.
Ouais, c'est ça. Et puis, moi, c'est vrai que ça, c'est ce qui m'a, je trouve, c'est ce qui est le plus intéressant, c'est de rendre à ce genre d'histoire, en fait, le conflit, parce qu'il y a, enfin, le conflit de sous-jacent qui est l'idée de jouer la montre, en fait, pour les entreprises, en fait, et moi, je trouve qu'il y a un élément
légal,
voilà, il y a un élément presque pas de suspense, mais il y a un élément, je trouve, d'intrigue qui est vachement intéressant, c'est cette idée que les gens sont atteints par les résidus, donc sont des cancers, donc vont mourir. Et en fait, on attend de voir est-ce qu'il y en a qui vont survivre par rapport aux décisions de justice, notamment le fameux fermier qui est à l'origine de l'affaire et dont on voit évoluer la maladie au fur et à mesure avec son épouse. Enfin voilà, c'est assez glaçant, quoi, parce qu'on voit le cynisme à l'œuvre. Et en fait, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport au catholicisme, et j'avais pas forcément pensé à ça comme ça. Mais à mon avis, le fait que la famille soit catholique, c'est pas effectivement du tout un hasard, parce qu'en fait, ce que fait Marc Ruffalo, en fait, dans ce film, c'est qu'il fait l'expérience du mal, en fait. Du mal à l'état pur, c'est-à-dire d'un mal purement rationnel, purement cynique, qui n'a pour autre but
qui est inattrapable,
qui est inaccessible, et qui n'a pour d'autre but que la satisfaction d'une gloutonnerie financière qui passe par-dessus les gens, par-dessus les animaux, par-dessus les êtres humains. Et je crois que ce qui déstabilise le personnage dans sa foi, justement, c'est ça, c'est qu'en fait il se rend compte que le mal existe sur Terre, et ça explique peut-être du coup pourquoi est-ce que de temps en temps le film a l'air de dévier vers le cinéma fantastique et vers le film de zombies, c'est pas évidemment des citations, ou c'est pas des gros clins d'œil appuyés, hein, c'est plus, voilà, on sent qu'il y a, voilà, on sent que ça pourrait, quand on regarde le scénario et tout, on sent qu'on pourrait glisser du film dossier au film d'horreur, finalement, de manière assez logique, en fait, quelque part.
Par la musique, par la photo, qui est très sombre, qui est très crépusculaire.
Ouais, il y a un petit côté La Nuit des Fous Vivants aussi, moi, je trouve, de Romero, avec cette espèce de cadre rural, avec tous ces animaux qui meurent. Enfin, voilà.
Il y a le motif de la télévision qu'on retrouve, ce qui est un motif du cinéma d'horreur fantastique. Enfin, Vidéodrome, Poltergeist, les films de Nakata, Ring.
Ouais.
Voilà, ce motif, en fait, de l'écran de télévision apparaît des fois frontalement à l'écran. Et tu vois très bien, en fait, que c'est moi, je te suis complètement, c'est qu'en fait on glisse petit à petit dans un film d'horreur,
et sans jamais c'est là que c'est intéressant, c'est que ça se fait de manière encore une fois, c'est comme les explications, tout ça, ça se fait de manière soft. Et ça, c'est un truc que j'ai bien aimé aussi, en fait, c'est que là ça tient au personnage, c'est que le personnage a l'avantage d'être aussi ignorant que nous. Donc quand on commence le film, notamment toutes ces scènes, effectivement, de dépouillage de dossiers, moi je les ai trouvées vachement intéressantes, parce qu'en fait, moi qui ne connaissais rien, enfin, qui avait vaguement entendu parler de cette affaire, mais qui ne connaissait pas du tout les détails de l'affaire. Ben, en fait, les détails de l'affaire se révèlent au fur et à mesure qu'il se révèle au personnage principal. Donc, du coup, évidemment, ça renforce l'identification qu'on a avec lui. Et la saloperie. Il y a même des effets, d'ailleurs, de suspense, on va dire, où il sait quelque chose que nous, on ne sait pas encore, mais qui a l'air tellement gros, notamment en ce moment où il va voir son épouse, justement, dans la cuisine, et où il lui révèle que c'est pas simplement les gens du bled à côté de l'usine qui sont touchés, c'est tout le monde, en fait, quoi. Et c'est là qu'il sort le truc du téflon. Et c'est là que, c'est vrai que moi, j'avais pas. Enfin, moi, le téflon, c'est un truc qu'on nous a vendu. Moi, quand j'étais gamin, le téflon, c'était considéré comme la meilleure surface pour cuire dans les poêles et tout ça, quoi. Donc, on a tous bouffé au téflon quand on était gamin. Et alors là, du coup, en tant que spectateur, il t'arrive un truc vachement bizarre. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu fais merde. merde, putain, en fait, ça, c'est pas une histoire dans le passé, machin. Non, non, c'est une histoire qui me touche, moi, personnellement. Et du coup, ça accroît encore l'intérêt, je trouve, qu'on a, parce que du coup, ça te place, en fait, dans le dispositif. Au lieu de justement d'être dans un film dossier où t'as l'impression d'être à l'extérieur et de voir tout bien étalé clairement, mais en fait cette espèce de révélation par la subjectivité du personnage en fait fait qu'au bout d'un moment la révélation elle te touche toi aussi. Et ça, moi j'ai trouvé ça, je trouve que justement, et encore une fois c'est pas fait sur le plan du sentimentalisme ou du larmoiement et tout ça, c'est juste toi spectateur, t'as ton cerveau qui fonctionne et Todens il se dit bah tiens merde mon spectateur il est pas con. Et il va comprendre le lien que ça a avec lui par mon personnage. Quoi. Ça, je trouve ça.
C'est comme le personnage de Marco Follo, parce que donc c'est un avocat d'affaires, tout ça, qui est habitué, c'est un mec intelligent, qui est cultivé, mais qui ignore de ce qui se passe. Ah, et quand exactement. Il voit notamment les spécialistes sur la chimie, tout ça, il pose plusieurs fois des questions parce qu'il ne sait pas. Donc il pose presque des questions stupides. Mais si tu prends ça, ça fait quoi ? Si tu prends ça, ça fait quoi ? Si tu prends ça, ça
et
fait
si
quoi ?
Si tu mélanges ça et ça, ça
voilà,
fait quoi ?
Il fait, imagine, c'est comme si tu buvais un pneu, quoi.
Et c'est les questions qu'on se pose nous aussi. C'est les questions qu'on se pose nous aussi. Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Et en fait, on comprend ce qui se passe.
Mais c'est des trucs limpides qui passent, tac, tac, tac.
Et ça, c'est ça. Moi, j'avoue que d'un point de vue narratif, c'est tout simple, hein, mais ça marche super bien. Quoi.
Pour rebondir sur ce que tu dis, en effet, la scène de révélation où il explique un petit peu le merdier, c'est que on est à peu près au milieu du film. Il y a un superbe montage parallèle où on passe de Anna Thaoué. On passe au fermier et il explique un petit peu. En fait, c'est une longue ligne de discours, mais avec un superbe montage parallèle. Et
oui,
du coup,
il parle
montage,
à plusieurs personnes en même temps.
Et le montage parallèle, du coup, Todd Haynes inclut par la force des choses nous spectateurs dans ce montage parallèle, ce qui fait que c'est la construction du film en termes d'enjeu dramatique et à ce titre-là exemplaire. Et puis pour revenir sur le côté un petit peu cinéma d'horreur, moi, l'intro du film, ça m'a fait penser au Piranha de Joe Dante. Et qu'est-ce que nous raconte Piranha de Joe Dante ? En gros, c'est la contamination de la nature. Si on est dans une optique transcendantaliste, pardon, c'est la contamination de la nature par un complexe. Dans Piranha, c'est le complexe militaro-industriel, et ici donc par un complexe purement industriel. Et en fait, c'est la même logique que Dark Waters pourrait être un film des années 70.
Ou ça pourrait être Toxic Avenger.
C'est exactement ça. Donc, bien entendu, on parle de la queue de chef-d'œuvre, hein. Mais en fait, on est exactement dans cette même logique. Et en fait, de facto, le film est un film d'horreur. Parce qu'il commence comme le cinéma d'horreur l'a montré dans les années 70. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Et même après toute la découverte du champ, là, avec ses
toutes les scènes dans la ferme, là, avec la
putain,
neige.
C'est magnifique, la neige, avec ses arbres morts, c'est la nature prison. On est dans une lecture anti-transcendantaliste.
Et puis, il arrive à te faire flipper avec une vache.
Il t'arrive à te faire flipper avec une vache, ouais. Il te pose une atmosphère avec un cadre, des arbres morts et Mark Ruffalo qui se fait un petit peu dévorer par ses arbres. Mmh. Enfin, la science du cadrage dans ce film-là, il n'y a pas un plan à jeter. C'est millimétré, c'est au cordeau, c'est d'une beauté. Ed Lachman est toujours ici à la photographie, donc la gestion des vitres, la gestion des
reflets. Tu parlais de la question des écrans, il y a aussi les écrans qui en fait n'en sont pas, c'est les vitres, c'est les reflets, c'est les vitres un petit peu grillagées.
Il fait toujours un peu ça,
mais c'est aussi donc, fait beaucoup Spielberg, notamment quand il fait un peu plus des films historiques comme Le Pont des Espions, comme The Post et tout, des écrans qui font écran alors que a priori c'est les trucs pour voir à travers, quoi, où justement ça bloque l'horizon et puis ça bloque l'espace, où du coup tu comprends direct qu'il y a un truc qui merde dans le champ.
Bah, qu'il y a un hiatus entre la transparence et l'opacité. Enfin, transparence, en fait, c'est de l'opacité, en fait. Et c'est ce que fait la boîte qui passe son temps à faire croire à Mark Ruffalo qu'elle est transparente, qu'elle va lui donner tous les documents et tout ça. Et alors qu'en fait, justement, la transparence est le moteur même d'une opacité volontaire qui est celle de couvrir l'avocat sous les documents pour pas qu'il puisse déterminer la vérité qui est éparpillée dans des petits documents, dans des petites citations à droite à gauche. En fait.
Après, cette gestion des flous, cette gestion des éléments de décor, les persiennes sont hyper intéressantes dans ce film. C'est des choses qu'on voit chez d'autres cinéastes. C'est tellement simple, c'est tellement évident.
Voilà, mais c'est ça, mais c'est bien fichu.
Tellement bien foutu. C'est tellement.
Et puis, qu'est-ce que c'est bien de voir moi, je sais que. Mais pareil, je m'étais dit ça aussi avec le Clint Eastwood, mais c'était toujours agréable de voir du cinéma où on pose la caméra et on laisse les acteurs jouer et nous transmettre des choses.
J'allais dire justement sur le cast, parce que notamment Mark Ruffalo, qui ces dernières années a plus tendance à jouer dans les conneries de Marvel, ou du coup,
faut bien payer ses impôts.
Mais de toute façon, je pense que c'est grâce à des films comme ça qui peut produire des films comme Dark Waters, où là justement, il a un jeu qui est hyper rentré, il a toujours la tête enfoncée dans ses épaules. T'as toujours l'impression qu'en fait, il se sent il se sent pas légitime ou pas à sa place pour faire un truc pareil, pour avoir une telle masse d'informations, une telle lutte contre un empire comme Dupont.
À chaque fois, de la manière dont il est cadré, à chaque fois, c'est une merveille et ça rentre totalement.
Il est enfermé, de toute façon, dans la plupart du temps, dans toutes les réunions qu'il a avec le staff d'avocats de sa boîte.
Et puis, c'est encore une histoire très américaine, justement, d'un mec qui. Et encore une fois, pour moi, il y a vraiment un lien avec Richard Jewell. C'est-à-dire qu'il y a cette histoire du mec, un mec qui croit au système, en fait, à la base, qui n'est pas du tout un rebelle au départ. Et le mec, c'est que la réalité va l'obliger à devenir un élément subversif parce que la réalité est trop absurde et trop cynique.
Et comme dans le Clean, c'est justement juste demander un peu de décence.
Voilà,
dans
exactement,
tout ça.
Exactement.
De la part de l'État, de la part de ses différents participants, de la part des industries. Mmh. Ça peut sembler être des grands discours, mais c'est des trucs assez simples en fait.
Un peu d'honnêteté intellectuelle. Ouais,
un peu d'honnêteté. Quoi.
Mmh, carrément. La décence, en effet, c'est. Et tu sens que Todd Haynes. Aime ces gens, aime les gens qui filment, et ça c'est hyper important. Et en même temps, il aime ces gens qui filment. La scène, par exemple, alors sans trop spoiler, mais la scène magnifique de la prise de sang, on va dire ça comme ça, c'est absolument magnifique.
Ils font des tests sur les habitants du coin pour voir s'ils sont
pas impactés.
Et en même
temps, ces gens-là, ils sont magnifiques, mais ils sont d'autant plus magnifiques qu'ils sont totalement prisonniers de ce système, de cette réalité totalement absurde. Et en ce sens, il y a des longs travelling en fait qui parcourent la ville et qui sont absolument magnifiques, qui rappellent un petit peu le travail. Alors, toute proportion gardée, parce que ça ne veut pas dire la même chose, mais par exemple, c'était dans, je ne sais pas si vous vous souvenez, de Kogan, de Andrew Dominik,
avec Brad
Pitt, où en gros, c'était un film de crise. Et en fait, il y avait tous ces travelling, ça s'est passé dans la ville américaine, qui était défoncée en fait par la crise.
Des trucs qu'on retrouve chez Jarmusch aussi dans Only Lovers Left Alive.
Voilà, ou dans Mystery Train aussi, quand il filme Memphis, aussi un petit peu déglingué. Et en fait, cette manière de filmer la ville déglinguée. Donc voilà, on la retrouve dans le cinéma américain, bien entendu. Mais ici, voilà, tu sens l'enfermement
Rocky,
qui est terrible de ces personnes-là. Enfermement d'autant plus terrible que c'est filmé donc au travers d'une vitre et avec des éléments, de petits éléments de décor. Un tag, un autocollant Dupont, le nom d'un rond-point, le nom d'une école. C'est des choses discrètes, mais qui passent, qui font sens, qui font discours et qui en plus, rajoutent à ce côté un petit peu horrifique. Ces personnes-là que Todd Haynes aime.
Mais qui sont les personnes qui passent.
Et elles sont ravagées par cette réalité. Et c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible.
C'est vrai que cette scène avec les panneaux là, qui montrent en quelques plans. Alors c'est rigolo parce que c'est une reprise, du début d'un film de Buster Keaton. C'est la reprise du début de Cadet de Zeus, en fait, où on voit que la ville appartient entièrement aux fabricants, aux grands propriétaires de bateaux à aubes. Et on voit ça juste avec quelques plans comme ça sur des devantures de magasins. C'est rigolo, j'étais très surpris de voir... Et comme quoi, finalement, ça dit aussi des choses justement sur cette espèce de recours au classicisme comme... un moyen de justement dans un monde qui est en train de bloquer, en fait, de buter en fait contre le postmodernisme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le cinéma mainstream a le gros désavantage d'être un cinéma qui devient purement référentiel, purement citationnel, et où il y a une mise à distance par l'ironie, par la blagounette, par l'absence de sang, par le ratiboisement de la violence pour faire du PG-13. Et c'est vrai que c'est stupide, hein, mais moi je me rends compte qu'en fait, moi ce que j'aime bien dans le cinéma hollywoodien maintenant, c'est ce que j'appellerais des films pour adultes. C'est-à-dire des films pour les grands, des films qui sont pas faits pour des gamins, parce que Dark Water c'est pas fait pour votre gamin de 15 ans. Je veux dire, à moins qu'il s'intéresse un peu à la question écologique, ça n'aura pas d'intérêt pour lui. C'est trop lent, c'est trop long, c'est trop calme, c'est trop rentré justement en termes d'interprétation. Et au contraire, moi je trouve que c'est en revenant justement à une espèce de dépouillement, mais justement à la Clint Eastwood. Alors que Todd Haynes n'est pas du tout un ennemi des expérimentations par ailleurs.
Non.
C'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir que finalement ce retour au classicisme, c'est pas un renoncement, c'est une autre forme d'expérimentation pour lui, je pense.
Parce que oui, justement, Todd Haynes dans sa carrière a adoré expérimenter à la fois sur les questions de narration, sur les questions formelles, sur les questions de personnages, où souvent ça partait parfois assez loin, comme dans Velvet Goldmine notamment. C'est peut-être son film le plus déstructuré à ce niveau-là, où ça partait vraiment en sucette. Et de temps en temps, il revient à des trucs beaucoup plus classiques, beaucoup plus sobres.
Moi, j'ai pensé à Loin du Paradis, par exemple, qui avait un côté mélo flamboyant, mais qui était en
très sœur,
mais qui était en termes de mise en scène, justement, qui était vachement en référence justement à Douglas Sirk, au classicisme. Et on sentait qu'il avait envie de se confronter.
C'était une expérimentation.
Voilà, à cette écriture classique.
Classique, ça reste une expérimentation.
Et que ça a à voir avec le sujet aussi. C'est-à-dire que Bob Dylan Dylan, ça autorisait un peu de psychédélisme, justement. Oui.
Justement, alors que Dylan, là, Dylan, ça ne supporte pas l'académisme.
Voilà, ça aurait été nul.
Ça aurait été plat, ça aurait été chiant. Nul,
voilà, ça aurait été un biopic de merde.
Ça aurait été Ray ou je sais pas.
Voilà.
Même Scorsese qui l'a fait quand il avait tourné la, quand il a filmé la tournée de Dylan.
No Direction Home.
No Direction Home.
Donc voilà, c'est ça. Non, c'est le film qu'on avait fait là qui est sorti sur Netflix.
Rolling Thunder Review.
La Rolling Thunder Review, ouais. Voilà. Oui. Dylan n'aime pas l'expérimentation, n'aime que l'expérimentation. Et Todd Haynes, du coup, avec, quand il avait fait son biopic, c'était totalement ça.
Bah, c'était un bon point de vue, ouais, deux points, je trouve.
C'est
voilà,
exceptionnel.
Et en fait, c'est ça, encore une fois, c'est que finalement, on se rend compte que chez Todd Haynes, mais finalement, comme chez d'autres. Parce que pour moi, Todd Haynes, c'est quand même un réalisateur mainstream. C'est pas un réalisateur expérimental, indé.
Il y a des stars dans tous ses
voilà,
films.
Voilà,
mais sujet.
Mais voilà, mais je trouve qu'il a ce. Alors, il est peut-être pas à ce niveau-là, mais pour moi, il est dans la même famille que pour d'autres raisons, Catherine Bigelow, quoi. C'est-à-dire des gens, c'est-à-dire des réalisateurs mainstream, et où il y a vraiment. Enfin, moi, je trouve qu'il y a vraiment un point de vue, quoi. Je veux dire, de film en film, et où il y a effectivement cette sympathie pour les classes populaires, cette manière de les représenter, moi, je trouve, qui est assez. Ouais, qui est assez Steinbeck, assez, enfin voilà, qui s'inscrit vraiment dans une tradition américaine de représentation du prolétariat, avec ses contradictions, enfin voilà, je trouve.
Et qui savent filmer, ouais. Qui savent faire un montage, qui savent musique exceptionnelle. Hein, quand, enfin, je veux dire, putain, un film qui se termine par Johnny Cash.
Ouais.
Déjà, t'as.
Il y a du John Denver. Tout ça.
ça commence comme du Dante, ça termine avec du Johnny Cash, mais c'est impossible de pas aimer ce film.
Puis une scène de fin en plus que je trouve aussi très très belle, où en gros c'est les procès enfin qui s'engagent entre ceux qui ont été contaminés puis Dupont, tout ça. C'est une scène qui est très courte, mais
oui,
mais qui termine par une réplique finale où le juge se lève et dit à Mark Ruffalo, bah alors machin, l'avocat c'est qui? Puis c'est Mark Ruffalo qui se lève, il fait, ah, vous êtes encore là, ouais, toujours là.
C'est vrai que ça évite l'écueil du film de procès avec le grand discours final un peu à la Capra
ou JFK de Stone.
JFK, mais... on a pu voir ça aussi dans le.
Parce que c'est quasiment
le Promised Land de Gus Van Sant aussi.
Ou le Bûcher des Vanités, parce que là le monologue final du Bûcher des Vanités correspondrait complètement sur l'honnêteté, quoi. Enfin, Morgan Freeman.
Ah bah là,
le Bûcher des Vanités, ça correspondrait complètement au sujet du film, quoi. Ouais.
Donc ça évite cet écueil-là, donc ça c'est plutôt cool. Et puis en fait, voilà, il coupe au bon moment. Et auparavant, t'as ces plans sur les industries, sur Cincinnati, sur cette rivière que tu sais. Dégueulasse. Enfin, les plans larges sont.
L'Ohio.
Et une maîtrise du plan large aussi, qui est notamment dans le final, là, qui est absolument.
Quand tu vois, quand tu t'éloignes au fur et à mesure et qu'en fait ça te dit, bah, y a rien qui est résolu, en fait. C'est-à-dire que l'usine, elle est toujours là et elle fume toujours. Et toi, du recul, tu sais, comme si en disant, bon, bah voilà, on sort du film. Mais en fait, il n'y a pas eu de happy ending. Enfin, ouais, moi, je trouve ça bien.
C'est bien, les films aussi qui laissent toujours un petit goût de merde dans la bouche.
Ouais, voilà, c'est ça. Si, si, c'est très. Non, je trouve que c'est un
plus. Où tu vas rentrer faire tes œufs au plat sur ton omelette en téflon.
Sur ton truc en téflon, bah, tu penseras quand même à ça, quelque part. Ça t'empêchera pas de faire tes œufs au plat et de t'empoisonner. Mais ouais, tu penseras un peu à ça quand même, quoi.
Donc voilà, allez, c'était le nouveau film de Todd Haynes, Dark Waters. Une fois de plus, un grand film à ajouter dans sa filmographie qui est quand même quasi parfaite. Hein.
Il
n'y a pas de déchets en tout cas. Voilà. Donc, très grand film de Todd Haynes. On va passer à un tout autre genre. On va rester dans l'Amérique et on va pour ça aller sur des chevaux sauvages.
Childhood living is easy to do. The things you wanted, I bought them for you. Graceless lady. You know how I act. You know I can't let you slide through my hands. 'Cause wild horses couldn't drag me away. I watched you suffer.
how you decided to show me the same. But no sweeping exits, oh, off stage line could make me feel bitter or treat you unkind. Yes. Why? But I don't have much time. My faith has been broken, and tears must be cried. Let's do some living.
En attendant Godard sur Syllab, et c'était les Rolling Stones avec Wild Horses, qui n'est pas la version d'origine, mais qui est extraite de leur album acoustique de 1995, Stripped, et de Chevaux Sauvages. Pardon, il va en être question dans L'État Sauvage. Deuxième long métrage en tant que metteur en scène de David Perrault, sept ans, je crois, après son premier long métrage qui s'appelait Nos héros sont morts ce soir. Donc, film assez référentiel sur le cinéma des années 50 et 60 et sur un milieu assez particulier qui était celui du catch et des lutteurs. Là, il passe dans un tout autre style, on va dire, en tout cas un tout autre décorum, parce que ça prendrait le décorum du western du Grand Ouest sur la fin de la guerre de sécession, la bagarre entre les nordistes et les sudistes, et au milieu se trouvaient quelques colons français pour qui était plutôt dans le sud, donc en Louisiane, pour qui le cul commence à chauffer. Et donc c'est une famille avec le père, la mère et leurs trois filles et leur boniche qui se disent « Ah, va peut-être falloir décarrer et retourner en France parce que sinon, ça va être coton pour nous. »
Et coton dans le sud des États-Unis, on sait que ça n'a pas peu de sens.
Voilà, exactement. Et donc, toute cette petite famille décide de partir, accompagnée par un genre de baroudeur, un peu badass, mais un peu en même temps un genre de simili grand cœur, et de partir tout ça. Donc, ils prennent leurs affaires, leurs chariotes, leurs chevaux, et donc ils décident d'aller partir vers la côte ouest, pour prendre un bateau. Évidemment, c'est un long voyage parce que c'est l'Amérique, c'est grand, les chevaux ça avance pas vite, et puis dans tout ça, va bien avoir des bandits qui vont se mêler de cette affaire, dont notamment une femme, ancienne compagne du camarade badass, accompagnée par une tripotée de cavaliers masqués. Donc voilà, cinéma assez référentiel sur un des thèmes un peu classiques, la fuite, le convoi, genre le convoi de femmes, Wellman, tout ça, machin. Parce que David Perrault, ça fait partie des cinéastes cinéphiles, très référentiels, qui a été pendant longtemps des membres très actifs du forum du site DVD Classique, où il y avait quand même beaucoup de choses assez intéressantes en termes de discussion, en termes de référence, tout ça. Et qui donc va avoir à la fois les qualités et les défauts de tous les cinéastes cinéphiles et fétichistes, c'est-à-dire qu'il va pas voir parfois s'encombrer dans des références formelles et dans des références de genre qui seront un peu balourdes ou un peu malvenues, et comme beaucoup de ces gens-là, ils vont avoir, je trouve, une peur du jusqu'au boutisme, en tout cas d'aller au fond de leurs idées, alors qu'il y a beaucoup d'amorces potentielles qui sont hyper intéressantes, notamment sur la question, par exemple, des Français aux USA durant la guerre de sécession, sur la question de la contrebande, tout ça, sur la question de la place de la femme, sur l'émancipation potentielle ou pas des personnes qui étaient affranchies, tout ça, où il y a pas mal de pistes intéressantes, et parfois, ça fonctionne très bien, et aussi, souvent, je trouve que ça se prend les pieds dans sa propre ambition, et tout d'un coup, ça devient patatras, alors que de temps en temps il y a beaucoup de choses assez intéressantes qui se passent, où il dévie un peu du western pour aller plus vers une forme qui serait celle du giallo, notamment sur la musique, sur la question de la photo, sur une menace sourde qui entrait ces personnages là, la question du vaudou, il y a beaucoup de choses qui se passent et ça serait assez touffu en termes d'ambition, et ça abandonne beaucoup de ces pistes narratives pour se concentrer sur une forme, sur une mise en image qui fonctionne par moments, où il y a parfois des côtés un peu éthérés, presque mystérieux, voilà, ésotérique, et où en fait ça se pète la gueule après par des séquences qui sont assez ridicules en termes de scénario, en termes de dramaturgie, en termes de structure, où là tout d'un coup on se demande qu'est-ce que ça fout là, on a l'impression de passer dans un autre film où les mecs auraient oublié d'écrire une scène genre un peu tendue, un peu intéressante, ils font ça puis après ils repassent à autre chose, et tout d'un coup ça donne un film assez bancal, malgré, je trouve, quand même pas mal de qualité en termes techniques notamment, et en termes d'ambition de sujet, on va dire. Parce que ici, Gal et le docteur, vous l'avez vu, c'est que docteur, vous êtes un peu coussi-coussa, et Gal, vous êtes carrément pas coussi et encore moins coussa, quoi. Alors, Gal, mon cher, non.
Oui, ouais, effectivement, je suis un peu mi-figue, mi-raisin, comme dirait l'ami Yannick Dahan. Voilà, effectivement. Pour moi c'est vraiment un film
combi-bon.
C'est un film qui reste au milieu du gay pour moi, quoi. Il y a vraiment ce côté là quoi, c'est à dire que le mec dit je vais faire un western, alors, ok, très bien, je commence par une scène de fusillade, ok, très bien, moi je me dis ok,
dans une église,
voilà, je me dis ok, très bien, avec à côté effectivement un peu giallo, un peu cinéma italien, un peu western, voilà, un peu western spaghettoche, ok, moi je prends, hein, je veux dire, pourquoi, même un film hommage je prends. Et puis en fait au bout d'un moment effectivement il veut tellement brasser de sujet en fait que finalement il en choisit vraiment véritablement aucun, et du coup ça s'éparpille sérieusement. Et en fait le truc, par exemple, moi je trouve qu'effectivement la bonne idée du film c'est le fait que ce soit des Français. Alors déjà, ça, c'est à la fois, je trouve, la bonne idée, et en même temps, ça rend problématique la chose dès le départ. C'est-à-dire que c'est un western où les acteurs parlent français. Et ils ne sont pas doublés. Et alors du coup, c'est là tout d'un coup, c'est marrant, hein, moi ça m'a vraiment fait cet effet-là. C'est-à-dire que dès qu'on commence à parler anglais, je dis « Ok, d'accord, là on est dans un western. » Mais si ça parle français, eh ben, j'avais vachement de mal à rentrer dedans. Et je pense qu'il aurait fallu, et peut-être que là-dessus, il y avait déjà presque un film entier à jouer sur cette histoire de langage. Parce que les acteurs sont pas si mauvais que ça, moi, je trouve. Voilà, d'une manière générale, pour des acteurs français, je trouve. Enfin voilà, j'ai vu pire, on va dire. Mais voilà. Et cette tout ce côté géopolitique de la présence française, voilà, qu'est-ce que ça veut dire, le rapport qu'ils ont avec leur domestique noir. Enfin voilà, il y a plein de débuts de trucs intéressants. La relation que la domestique a avec le maître de maison, qui est une vraie relation amoureuse, alors que son épouse n'aime pas. Bon. Voilà, pareil, les relations entre les trois sœurs, on aimerait en savoir plus. Enfin voilà. Et en fait, le problème, c'est qu'il a donc d'un côté donc cette espèce de film sur les Français pendant la guerre de sécession, un autre film qui est sur une famille confrontée à une crise et comment les femmes de la famille vont être obligées de se prendre en main après la disparition des hommes, et un western. Et le problème, c'est qu'en fait, il fait les trois les uns à côté des autres, mais je trouve qu'il mélange pas. Il n'arrive pas à mélanger véritablement les choses. Et en fait, moi, il est arrivé, on va dire, à la moitié du film. Il y a un moment où j'ai un peu lâché la barre, parce qu'il y a cette scène de la diligence, moi, que je trouve complètement aberrant.
La diligence, en gros, est bloquée au milieu d'un espace étroit, voilà. Et puis donc ils ne peuvent plus avancer, donc il faut passer à côté de la diligence. Voilà.
Et, donc,
en termes de scénographie, c'est aberrant.
Voilà. Et il y a un précipice en termes de scénographie, c'est aberrant, parce que toi, tu es au cinéma, et alors il n'y a rien de pire au cinéma quand le spectateur a la solution à la scène et que la scène dure 10 minutes.
Et puis tu as envie de gueuler, mais passe à côté !
Voilà. Alors, déjà, tu peux passer derrière ou tu peux passer au-dessus, et il n'y a aucun souci. Et surtout, je trouve que cette scène est d'un littéral. Dans la mise en scène et dans ce qu'elle veut dire, qui est tellement premier degré,
ouais.
Que moi j'arrive pas, quoi. C'est trop, je trouve ça con, quoi, vraiment.
Parce que le seul personnage qui donc passera par-dessus la diligence, c'est le personnage féminin incarné par Alice Izaz, qui veut se plus s'émanciper, sortir.
Ouais, je trouve que c'est une scène qui montre, enfin pour moi, le personnage féminin en faisant ça est aussi poseur que le réalisateur, quoi. Tu vois, c'est, je trouve que c'est un film. Bah, c'est
ça, ça devrait être hyper iconique. Et
ouais,
en fait, ça ne l'est pas.
Ça l'est pas, ça ne marche pas.
Ça ne l'est pas parce qu'en fait, au bout d'un moment, on se dit, mais ouais, mais en fait...
Parce qu'il y a un problème de rythme, il y a un problème d'écriture, ouais. Comme dans tout le film. Quoi.
Et puis, il y a un problème de personnage, pour moi.
Personnage, ouais.
C'est-à-dire que ce personnage qui veut s'émanciper, machin, tatatin, je veux dire, elle tombe amoureuse du premier gros dur qui passe, je veux dire, elle veut s'émanciper, mais il y a quand même un petit côté pisseuse trop gâtée. Et à la limite, pourquoi pas
ça
pourquoi pas d'avoir un personnage, mais d'essayer de nous le rendre sympathique. Et d'essayer d'en faire en sorte que ça devienne. Moi, par exemple, j'aurais préféré que le personnage principal, ça soit le bourrin. Ça soit... Parce que là, j'aurais plus cru au western si le personnage principal, ça avait été cette espèce de pisteur comme ça, qui est poursuivi par une femme qui refuse la séparation entre eux. Et à mon avis, cette histoire-là était plus intéressante, finalement, que cette espèce d'histoire d'amour idiote un peu entre les deux.
Mais moi, j'ai l'impression que c'est presque un film de petit malin qui essaye de cocher tous les trucs de je fais l'inverse de ce qu'on attend de moi, quoi.
Ouais, mais ça marche pas.
Je fais l'inverse des codes.
Exactement.
Mais ça marche pas parce que.
Et pour la question du langage, tu vois, moi, pour moi, c'est pas une question du fait qu'il parle en français. C'est pas un souci pour ça. Je pense que c'est plus un souci d'écriture des dialogues.
Ouais.
Essentiellement. Parce
très littéraire, très.
On a vu des westerns en doublage français qui passaient très bien, ouais. Quoi.
Mais par contre, c'est pas Deadwood. En termes de comportement, c'est pas Deadwood, quoi.
Non.
Il y a pas cette espèce de naturalisme que tu sens dans certains westerns ou que tu sens d'ailleurs que tu sens par exemple chez Tommy Lee Jones, quoi, parce que tu vois, moi je pensais à The Homesman, qui est aussi une histoire de femme qu'on emmène,
ouais.
Sauf que The Homesman, je trouve que c'est incroyablement plus maîtrisé, quoi, je dirais. Et on sent que le mec totalement. Connaît le genre sur le bout des doigts, il essaye pas justement.
Qui connaît l'Ouest
ouais, en fait, voilà, c'est ça, effectivement, je suis d'accord avec toi, il y a ce côté, je suis plus malin que le genre. Et, sauf qu'en fait, dans la réalité, on n'est pas plus malin que le western. Le
mais
western,
moi,
c'est le western.
Soi, tu vois, ça me dérange pas qu'il essaye d'en faire autre chose, qu'il y a presque des irruptions de fantastique ou de choses comme
pourquoi
ça.
Pourquoi pas,
dedans,
ouais,
mais,
bien sûr.
Le truc, c'est que l'axe. Qui choisissent en fait, comme disait Thomas, il faut y aller à fond ou alors il faut pas y aller, quoi, mais pas un espace entre deux comme ça.
Ouais, et puis peut-être cette espèce de discours un peu féministe qui arrive à la fin et qui, à mon avis, aurait mérité parce que pareil, la scène finale elle est pas si mal que ça, mais le truc c'est qu'il aurait fallu qu'elle soit construite dramatiquement sur les relations. Il aurait fallu que le film soit uniquement sur les relations entre ces femmes et qu'on élimine
les hommes dès le début
et qu'on élimine qu'on élimine la love story notamment parce que moi il y a un autre truc que j'ai pas réussi à croire, c'est comment est-ce que cette petite minette elle tombe amoureuse de cette espèce de gars en l'espace de trois scènes, quoi. Et le rapport au temps est bizarre dans ce film. T'as l'impression que ça dure une semaine alors que c'est censé durer plusieurs semaines, mais tu le sens pas le passage du temps. Enfin, elles sont toujours pimpantes, du début jusqu'à la fin. Enfin,
les fringues restent clean.
Et après, il y a des trucs pourtant que je trouve intéressants. Le fait que tu te dis, tiens, tel personnage va mourir, et puis en fait, c'est pas ce qui se passe, que tel personnage va survivre, et puis en fait, c'est pas ce qui se passe. Il y aurait eu moyen justement de jouer avec les codes du genre et tout.
Mais surtout, à la fin, quand il fait du pur genre dans une scène de fusillade la nuit, ouais. Ça fonctionne hyper bien.
Ben ouais.
Où là, tu dis, ouais, franchement, t'as des vrais trucs de mise en scène, t'as une vraie scénographie, t'as une vraie tension.
Mais fallait l'amener, ce truc-là.
Puis t'as un vrai truc naturaliste sur des flingues qui sont hyper lourds, qui sont hyper chiants à recharger. Ouais. Où il y a un truc qui se passe là où tout d'un coup, t'es genre d'envolée qui passe pas seulement par la violence, mais par la mise en scène. Où là, tu sens qu'il a vraiment envie de faire ça.
Ouais, mais pour que cette scène-là elle fonctionne véritablement, il aurait fallu faire monter la sauce dramatiquement avant. Pour que moi, à la fin, quand cette scène-là arrive, je fasse bouilla, quoi. Bouilla, ça c'est la scène, quoi.
Bouilla,
attention.
Cacha.
Ouais, mais tu vois, parce que moi, en fait, ça, je vois bien ce qu'il essaye de faire. Et sauf que ces filles, elles deviennent badass en 5 minutes. Il aurait fallu montrer à quel point elles sont en fait déjà badass au départ, en fait, ces filles-là, quoi. Tu vois,
déjà, elles deviennent badass en 5 minutes. Et en plus, la menace qui sort dans tout le film d'un groupe d'hommes qui poursuit comme ça. Alors, en fait, c'est pas une menace. En fait, ils sont pas une menace pendant tout le film. Ils le deviennent que à la fin, moi, je trouve. En fait,
oui.
D'un seul coup, comme ça, tu sais même pas pourquoi. Et parce que du coup, ça prend pas quoi.
D'en faire des fantômes.
Parce que le hors-champ du film, et moi ça aurait été un hors-champ qui aurait été super intéressant à travailler, c'est le hors-champ de la peur du viol, c'est ça.
Oui, complètement.
Et il fuit, pourquoi est-ce que le père fait fuir ses filles? Parce qu'il a peur qu'elles se fassent violer par les nordistes. Et il y a cette scène avec le soldat nordiste. Et
c'est tout ce qui est dit au début.
Voilà, hein, qui amorçait quelque chose. Et en fait, il y a trop de directions en fait, dans ce film. Il y a trop de pistes en fait, dans ce film, et du coup, il se retrouve à plus savoir laquelle emprunter. En fait, quoi. C'est ça le problème. Quoi.
Ouais, mais moi, il y a un ensemble de positions qui me pose problème. Enfin, tu vois, il te fait une diatribe. En fait, tout le film fonctionne sur cette peur d'être violé par les nordistes. En effet, on voit jamais les sudistes, et en fait, les sudistes sont des victimes des nordistes. Point. Il n'y a pas de trucs comme ça.
Ouais,
la relation entre la femme de ménage, la bonne, qui est une esclave affranchie, qui est payée, et on le dit bien, le mari le dit bien, et elle est amoureuse du mari et tout. Je trouve qu'il y a une sorte d'idéalisation un peu des Français aux Amériques.
Oui, qui serait pas pareil que les autres.
C'était pas pareil que. Et c'est,
bon, on est vachement éduqués quand même. Hein.
Et tout ça, j'y crois pas en fait. Et il y a des choses complètement anachroniques. Il y a une scène de dialogue entre deux sœurs où il y en a une qui révèle sa sexualité à l'autre. Mmh. Et j'ai l'impression de voir un dialogue d'un film de maintenant, mais qui se passerait maintenant, quoi, au XXIe siècle. Et j'y crois pas du tout dans l'écriture.
Oui, alors que c'est beaucoup plus scandaleux que ça, normalement. Enfin, oui. Ça devrait être scandaleux. Comme,
et là, c'est vraiment genre confidence. Je suis lesbienne. Tout va bien.
Ma sœur,
on est au XIXe siècle, mais tout va bien aussi. Enfin. C'est...
Oui, sachant qu'elles se sont assez peu parlées en plus.
Elles
ne
se parlent pas.
Et c'est ça le truc. Il aurait fallu plus de scènes entre les filles à coups de regard, à coups de gestes, à coups de qui touche qui.
Qui passe par des plans, pas par des dialogues. Ouais.
Qu'on comprenne mieux qu'est-ce qu'ils font finalement, qu'est-ce qui fait que ces filles-là vont être solidaires à la fin. Parce qu'en fait, on a l'impression, au contraire, de gens qui sont totalement désolidarisés, et on ne comprend pas comment est-ce qu'ils deviennent solidaires. Et à part la peur du viol, mais je pense que c'est pas suffisant, quoi. C'est à mon avis, c'est pas suffisant.
C'est un peu léger.
Ouais, c'est un peu simpliste. C'est un peu simpliste.
Je pense que ça peut forger une sororité, oui, comme il y a là-dedans. Mais le problème, c'est que dans ce cas-là, tu vois, c'est pareil. Le message, la peur du viol, c'est ça vient pas du mari, ça vient pas de.
Ça vient d'Arondi.
Ça vient d'Arondi, et ça vient en plus de personnages qui sont masqués.
Ouais.
Donc ça vient, c'est une menace extérieure, c'est pas une menace, tu vois, familiale ou dans la société directement, et du coup ça fonctionne pas, moi je trouve.
Ben oui, ça manque de terreau, quoi, tout ça, comme qui dirait. Voilà, ça manque un petit peu de terreau, et c'est dommage parce que on sent bien qu'il a envie de tenter des trucs, mais le fait d'être au milieu du guet comme ça et de pas vouloir vraiment faire un western, puisque c'est ça, à mon avis, le problème du film, c'est qu'en fait. C'est pas un western, c'est un film qui se passe aux États-Unis en 1860.
C'est un peu le problème de tous les Français qui voudraient faire des westerns et qui restent le cul entre deux chaises.
C'est un peu le même problème que Léaudière,
voilà.
Je trouve. Même si Léaudière, à mon avis, était quand même plus westernien dans son look et dans son propos. Mais là, je trouve qu'on a, c'est un peu ce même problème, c'est-à-dire pourquoi moi je suis ok qu'un Français qui fait un western, moi j'achète, hein, franchement. Mais à ce moment-là, on fait un western. On n'essaie pas de dire ouais, je fais un western, mais moi je suis pas comme Ford. Voilà, je vais vous proposer un truc différent. Ouais, proposer un truc
mais
différent.
Vous inquiétez pas. Western, s'accrocher un jour, je le ferai. Je mettrai en place mon concept de western
vraiment différent.
Voilà. Alors, soit complètement différent, soit vraiment.
Tu veux je pense que c'est possible.
Oui, le western, c'est un des genres les plus malléables pour faire tout ce que tu veux.
Mais il faut pas rester le cul entre deux chaises.
Ouais, exactement. Faut pas rester le cul entre deux chaises, tout à fait.
Voilà, c'est une belle assertion pour finir.
Après, il y a des belles choses. La musique est bien, la photo est bien. Enfin, voilà, moi je trouve qu'il y a quand même des belles choses, quoi, dans ce film-là. Mais c'est foutraque, voilà.
Foutraque. Donc c'était.
Et pour finir, je trouve quand même que ça ressemble quand même à un empilement de clichés du jeune cinéma français, Poggy et Vinel et Mandico et compagnie, dans certains aspects esthétisants et de musique et de choses comme ça.
Sur-esthétisant même, on pourrait
dire.
C'est
ça.
Trop sûr. Donc c'était L'État sauvage de David Perrault, sorti en salle il y a deux semaines.
Qui est habillé pour l'hiver. Là,
pour l'hiver. En plus, il fait froid dans leur pays là-bas. On va passer au coup de cœur Dr. Erwan.
Alors, sans transition, moi, ça sera La fiancée du pirate de Nelly Kaplan. Film anarcho-féministe... libertaire-féministe de 1969, que tout le monde devrait voir. Ouais. Voilà, parce que c'est vraiment une curiosité hyper intéressante du cinéma français des années 60. Quelque chose ça fait longtemps que je n'avais pas vu un film aussi
étonnant.
À part. Voilà.
Attends, je suis d'accord, Thibaut.
Moi, ça va être Dark Waters en particulier, et Toy Lines en général, et un petit
coucou,
un petit coucou spécial élection municipale à Rennes par rapport au communiqué du Stade Rennais Football Club Et l'histoire qui s'est passée avec Carole Gandon. Carole, pas après tout ce que tu as fait.
De la République en marche. Donc voilà. Qui a,
non, je rigole. Bien fait pour ta gueule.
Qui a volé toute la typo et la mise en scène des vidéos du Stade Rennais pour faire sa campagne. Et le Stade Rennais a fait un communiqué officiel pour dire que « Oh, cocotte, mollo, sinon procès. Hein. »
Ouh là là, voilà.
Bien joué, Carole.
Vivement la semaine prochaine.
Ouais, bon courage pour ce week-end. Et moi, alors, dans un tout autre genre, ça sera un documentaire qui est sorti l'année dernière japonais de Kaku Akamura, qui s'appelle 10 ans avec Hayao Miyazaki, comme son titre l'indique. Donc c'est 10 ans avec Hayao Miyazaki, de la pré-production de Ponyo sur la falaise à la sortie du Vent se lève il y a 3 ans. Donc toutes ses relations, comment il travaille, son rapport au studio, son rapport avec Takahata et ses rapports conflictuels, on va dire, avec son fils. Et c'est disponible en ligne gratuitement, 4 épisodes de 50 minutes, c'est passionnant. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Merci messieurs, merci Gal pour la technique. Prochaine émission, prochaine édition. Ah, ciao, bonsoir.
Salut.